présence dans cette liberté que nous avons en Jésus. Nous aussi, nous voulons dire merci au pasteur, notre frère Maurice Mouéou, pour la confiance réitérée à notre modeste personne, pour que ce matin, nous puissions nous entretenir avec l'Église sous sa responsabilité. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu se souvienne de chacun de vous, et vous tous qui nous suivez au loin, que Dieu se souvienne de vous. Amen. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Nous ne savons pas quand est-ce qu'on va finir, mais avançons comme on peut avancer. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté, le sous-thème que nous avons commencé à aborder depuis bien des mois, nous l'avons intitulé « Grandir et continuer à grandir malgré tout ». Grandir et continuer à grandir malgré tout. Nous lirons ce matin dans 1 Samuel chapitre 2, verset 21 au verset 26. 1 Samuel chapitre 2, verset 21 au verset 26. Ensuite, nous lirons Luc chapitre 2, les versets 40 et les versets 52. Luc 2, 40 et 52. Et nous terminerons par Galates chapitre 4, les premiers et les deuxièmes versets. Je reprends 1 Samuel 2, 21 à 26. Luc chapitre 2, 40 et 52. Galates 4, 1 et 2. Si nous avons trouvé, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tous les peuples vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Luc chapitre combien? 2, les versets 40 et les versets 52. Il est question de Jésus ici, dans son enfance, dans son humanité. Or, l'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Terminons avec Galates chapitre 4, les premiers et les deuxièmes versets. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Seigneur, nous te disons sincèrement merci de nous avoir envoyé ta parole, car c'est par elle que nous sommes sauvés. Et c'est par elle, Seigneur, que nous pouvons encore nous maintenir, ô Dieu, dans cette société en gestation, dans cette société qui vit au rythme de l'immoralité, ô Dieu. Comment se maintenir si nous n'accédons pas, ô Dieu, à cette parole qui est capable de nous recadrer, de nous faire voir les choses comme elles devaient être, ô Dieu. Et ce matin, Seigneur, donne-nous ta sagesse et communique-nous ton intelligence, afin que nous appliquions nos cœurs, ô Dieu, convenablement, pour que nous sachions comment agir, ô Dieu. Bénis ta parole ce matin, qu'elle trouve le chemin de nos cœurs et qu'elle nous rende la vie. Au nom de Jésus, amen. Nous accueillons la parole de Dieu par des applaudissements. Nous accueillons cette parole de vie, cette parole de paix et cette parole qui nous procure le véritable bonheur. Alléluia. Tout est parti de cette problématique que nous connaissons bien, du moins pour ceux qui ont suivi cette série depuis bien des temps. Cette problématique, nous l'avions présentée de la manière suivante. Est-il possible qu'un enfant, à peine sévré, puis déposé au milieu d'une famille rongée par l'immoralité, arrive malgré tout à grandir et continuer à grandir loin de ses parents. S'il est question ici de Samuel, nous connaissons tous l'histoire. Comment il est venu au monde? Sa mère Anne a fait un vœu à Dieu et elle a dit, si tu me donnais un enfant mâle, je te le consacrerai et tous ces jours seront désormais entre tes mains. Et l'enfant est venu au monde et Anne a accompli son vœu. Samuel est à Silo. Et Samuel arrive à Silo, il grandit dans un environnement rongé par l'immoralité parce que cela s'explique par le comportement des fils d'Eli. Ces hommes qui sont appelés des sacrificateurs, mais que nous voyons aussi vivre dans une immoralité cruante. Et tout parent responsable réfléchirait deux fois ou plusieurs fois même sur est-il possible de déposer mon enfant dans un tel environnement ou bien le garder chez moi à la maison. Et là, nous avions relevé beaucoup de vérités et aujourd'hui, nous avons essayé de répondre à cette question par l'affirmatif en disant que grandir et continuer à grandir était une exigence divine. Et cette exigence divine passe par trois éléments ou trois aspects importants. Les premiers aspects que nous avons déjà vus, c'était la valeur d'une graine semée à silo. Et le deuxième aspect des choses, ou c'était la deuxième exigence, c'est que il fallait grandir pour une grande utilité sociale. Et la troisième exigence, c'est les trois dimensions de la croissance d'un adopté. Les deux premiers, nous les avions déjà vus, et même les trois dimensions de la croissance d'un adopté, nous avons aussi déjà commencé à l'analyser, du moins dans sa partie introductive, où nous avons relevé deux éléments importants. Il fallait que tout adopté sache que dans les processus de maturation, dans les processus de croissance, il y a ce qu'on appelle le temps du processus, mais aussi la soumission de l'adopté. Le temps du processus est fixé par le père lui-même. Et le même père qui fixe le temps du processus, il fixe aussi les principes de la soumission. Vous ne pouvez pas obtenir ce que le père vous a promis, ce que le père a gardé pour vous, si vous ne passez pas par l'école de la soumission des administrateurs et des tuteurs. Amen. Voilà. Ce matin, poursuivons cet enseignement en analysant encore ces trois dimensions proprement dites de la croissance d'un adopté. Nous avons lu ensemble avec vous dans Luc chapitre 2, les versets 40 et les versets 52, qui nous dit ceci. Or, l'enfant, c'est-à-dire Jésus, l'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et le verset 52 il vient nous dire, et Jésus croissait en sagesse. Non seulement il croissait en sagesse, mais il croissait aussi en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous avons donc ici ces trois dimensions de la croissance de tout adopté. Parce que Jésus lui-même est un adopté. Amen. Il est adopté par rapport à son père Joseph. Et il nous apprend ici comment, en tant qu'adopté, nous pouvons grandir dans notre marche avec le Seigneur. Nous avons donc ici les trois dimensions de la croissance de Jésus dans son côté humain. Sur la terre, à savoir, il croissait en sagesse, il croissait en stature et il croissait en grâce. Nous devons savoir, frères et sœurs, que le but pour lequel Dieu nous a sauvés du péché, pour lequel Dieu nous a sauvés du monde, c'est pour que nous soyons transformés et que nous devenions à l'image de son Fils Jésus. Alléluia. C'est le but pour lequel Dieu nous a sauvés. C'est pour que nous soyons transformés et que nous devenions à l'image de son Fils Jésus, c'est-à-dire ressembler à Christ selon son côté humain. Et là, l'apôtre Paul vient nous révéler encore quelque chose de très important. Il confirme cela dans 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 18. Il dit, nous tous, les visages découverts, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblable au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande. Là, j'ai lu dans la version français courant. pour être semblable au Seigneur, et nous passons d'une gloire à une gloire supérieure, à une grande gloire. Donc l'objectif de tout enfant de Dieu, lorsque nous venons en Jésus, c'est pour que chaque jour que nous puissions travailler afin de ressembler à Jésus. Amen. Mais la question qu'on peut se poser ici est celle de savoir. C'est vrai, nous devons travailler pour ressembler à Christ et ressembler dans son côté humain. Mais la question que nous pouvons nous poser ici est celle de savoir comment cette croissance à trois dimensions de Christ peut être possible dans la vie des disciples, dans la vie des disciples que nous sommes et qui sont aussi appelés à ressembler à Christ. Comment cette croissance à trois dimensions de Christ peut être possible dans notre vie alors que nous sommes appelés à ressembler à Christ. En d'autres termes, nous voulons poser la question ici de savoir quel est le principe qui peut faire en sorte qu'en tant que disciples de Jésus, que nous puissions les ressembler dans sa croissance à trois dimensions. Comment pouvons-nous faire pour croître en sagesse, pour croître en stature et pour croître en grâce? Tout commence ici par 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17 que nous connaissons très bien. Un texte formidable. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est comment? Une nouvelle créature. Aussi dit, il est devenu une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la version du Seigneur dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Nous sommes ici tout au début de la foi. Quelqu'un qui était dans la vie du monde, il donne sa vie à Jésus. Il devient enfant de Dieu. Et la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand il traverse pour venir à la nouvelle création, il ne traverse pas avec les choses anciennes. Parmi les choses anciennes, il y a tout ce que vous savez là. Dernièrement, quand je donnais les affermissements au centre-ville, je leur disais, quand on dit on passe des choses anciennes pour de nouvelles choses, si tu avais une copine, elle fait partie des choses anciennes. Donc tu traverses celle. Et puis on me pose la question, pasteur, maintenant si après avoir traversé, beaucoup de temps sur ce vous continuez, beaucoup de temps chez Mané. Donc le feu avait continué à brûler. Et puis finalement tu t'es dit, bon, il n'y a pas bon ami. Yango, bon, on va continuer. Non. Non. Les choses anciennes, elles font partie des choses anciennes. C'est-à-dire, elles passent. Peu importe sa beauté, peu importe son argent, peu importe ce qu'il est, elle fait partie des choses anciennes. Quand tu passes seul. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent comment? Nouvelles. Alors, rappelons-nous de la phrase suivante que nous avions annoncée ici. Nous avions dit que tout ce que Dieu fait commence comment? Petit, mais ne finit jamais petit. Tout ce que Dieu fait commence petit, mais finit grand. Alléluia. Et donc, même la nouvelle création que nous avons désormais en Jésus-Christ, cette nouvelle création commence petite et elle doit grandir en nous. La nouvelle création en nous doit grandir. Tout ce que Dieu fait commence petit, mais finit grand. Il en est de même de toute naissance nouvelle. Elle commence petit. Mais il y a quelque chose de très important. C'est vrai, cette nouvelle naissance, elle est petite. Mais quand nous naissons dans la foi, Dieu vient placer en nous des potentiels surnaturels. Il vient placer en nous des capacités surnaturelles, des compétences surnaturelles pour nous aider à sortir des situations difficiles. Ces choses ne viennent pas après des années de la foi, mais ces choses viennent automatiquement quand nous naissons dans la foi. Nous sommes enfants de Dieu. C'est vrai, nous sommes encore petits parce que tout ce que Dieu fait commence petit, mais les choses, les potentiels surnaturels sont en nous. Les capacités surnaturelles sont en nous pour nous aider à sortir des situations difficile. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul parle dans Éphésiens chapitre 1er, du verset 3 au verset 6, il dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait quoi ?» Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon les bons plaisirs de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Lorsque nous naissons, nous venons à Jésus-Christ, il nous donne, il nous dote de ses capacités surnaturelles, de toutes ses bénédictions. La Bible a dit toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Il y a des bénédictions qui peuvent aller dans le sens matériel, tout comme des bénédictions qui peuvent aller dans le sens spirituel. Vous êtes enfant de Dieu, vous arrivez quelque part, vous devenez comme un Joseph. Tout ce que vous touchez réussit. Tout ce que vous saisissez marche. Et c'est là ma prière pour quelqu'un ce matin, que partout où tu seras, qu'il y ait la différence. Qu'on sente qu'il y a quelqu'un qui a en lui des potentiels de changer son environnement, de bouger son monde. Et non seulement que nous avons ces bénédictions qui peuvent amener la joie ou le bien-être, qui peuvent faire avancer le monde autour de nous, mais nous avons aussi le pouvoir de changer les choses. Nous avons l'autorité de bouger les choses. Ces choses viennent à nous lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Mais l'apôtre Paul nous dit, attention, c'est vrai, ces choses sont en vous, quand vous naissez, quand vous êtes une nouvelle création. Mais il vient dans Galates chapitre 4, les premiers et les deuxièmes versets. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est comment? Enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit, le maître de tout. En d'autres termes, il veut dire que l'utilisation et la jouissance de tous ces potentiels que Dieu a mis en nous dépend de notre maturité. Ces choses sont en vous, mais vous devez grandir. Il vous faut une certaine maturité pour jouir et utiliser convenablement ces choses. L'Église a un problème aujourd'hui, frères et sœurs, de la maturité. Et l'apôtre Paul nous donne quelques symptômes de l'immaturité. Et quand vous voyez ces choses chez un enfant de Dieu, dites-vous, il est immature. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 et le verset 3. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 2 et le verset 3, il est dit, « Je vous ai donné du lait. » Il y a un père qui parle aux enfants. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore comment? Charnel. » Le verset 3, « En effet, puisqu'il y a parmi vous quoi? De la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? » La jalousie, les disputes sont les symptômes de l'immaturité. La jalousie et les disputes sont les symptômes de l'immaturité. Quand vous voyez un homme qui ne s'accepte que lui-même, qui n'accepte pas l'autre, c'est un jaloux, un immature. Comment tu veux que tout ce qui est bien ne soit qu'à toi et à toi seul? Quand l'autre a fait quelque chose, non, c'est la jalousie qui te fait dire ça. Si c'était toi, tu n'allais pas accepter ça. Un jaloux, il y a des jaloux à l'église, il y a des jaloux à travers le monde. Mais aussi les hommes et les femmes qui passent leur journée à se disputer, à disputer autour des choses vaines et inutiles. Comme on a dit la même cité, comme on a dit la même Ronaldo et tout ça. Mais qu'est-ce que tu gagnes dans tout cela? Si moi j'étais dans cette église-là, ma changement pas dans ça là-bas, non, j'allais faire mieux que ça. D'accord, attends ton jour, le jour où tu auras quelque chose qui t'appartient, au sein de ma changement là-haut. Quand vous voyez quelqu'un jaloux, et se laissant emporter par des disputes, c'est un immature. Je crois que j'ai parlé à quelqu'un ce matin. On te menace pas, mais on te demande seulement de changer. Amen. Et les symptômes de l'immaturité, c'est ce que l'apôtre Paul nous parle ici. La jalousie et les disputes, nos potentiels surnaturels capables de nous permettre à changer des situations difficiles qui nous arrivent, sont liés à notre nouvelle nature en Christ. Ces choses sont à nous. Ces potentiels sont à nous et ils sont liés à notre nouvelle nature en Jésus. C'est pourquoi, lorsque l'apôtre Paul parle, il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ici, je vais partir avec quelques images. Je vais demander à la technique de me donner la première image. S'il vous plaît, voilà. Quand vous regardez, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Il y a deux poussins. Hein? Il y a deux poussins. Mais les poussins ici, c'est les poussins de la poule. Voyez? C'est les petits de la poule. J'ai pas appelé poussins petits de la poule. Mais celui-ci, c'est les petits de l'aigle. C'est un aiglon. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. En d'autres termes, aussi longtemps que l'aigle est enfant, il ne diffère en rien d'un poussin. Mais la différence est dans ce qui est dans chacun d'eux. Vous comprenez? La différence est dans le potentiel, dans les capacités et dans les compétences qui sont dans l'un tout comme dans l'autre. C'est-à-dire, lorsque un chrétien est enfant, il ne diffère en rien d'un païen, d'un esclave, il manifeste une certaine vulnérabilité. Ce qui ne permet pas à ce que ces potentiels qui sont en lui se développent, se déploient et changent les situations difficiles. Parce que nous sommes appelés à changer les situations difficiles. Amen. Et il faut que ce qui est en nous fasse quoi? Grandisse, atteigne la maturité pour finalement faire ce que nous devons faire. Donc, les deux, quand vous les voyez, et même le poussin de la poule, est plus grand, plus beau que l'aigle. Vous voyez, ça, c'est l'aiglon, le petit de l'aigle. Au début, là, c'est vraiment comme des... Panama, pas ça. Vraiment. Il se ressemble tout ça. La même taille, la même grandeur. Mais la différence, c'est dans le potentiel. On peut maintenant passer au numéro 2. Deuxième image. Ça veut dire que l'aiglon a en lui... L'aiglon a en lui... Le potentiel de s'envoler plus haut. Vous comprenez? Il est comme les poussins, mais il a en lui le potentiel de voler plus haut. Mais quand il est petit, il se ressemble. Vous comprenez? Alors, maintenant, quand vous voyez la poule là, les poussins là qui devient un coq, le coq ici, essaie un peu de voler. On va te voir. Regardez le coq qui va voler. Vraiment, première étape, il ne va pas très loin. Il peut pas aller jusque là directement, c'est trop loin pour lui. Et puis il fait ça en deux temps. Il vole quand même. Mais il ne vole pas directement, il fait ça en deux temps. Mais tout au début, ils étaient pareils. Maintenant, regardez comment l'aigle qui était semblable avec lui quand il était petit, comment il vole. Troisième image. Voilà. Regardez-le. Le vol de l'aigle royal. Regardez-le. C'est-à-dire, il est à l'étape où les potentiels qui étaient en lui sont en train de s'exprimer, de se manifester. Il était petit, il était comme les poussins, mais la différence est au niveau des potentiels. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, il est imprudent de te moquer d'un enfant de Dieu. Il est imprudent de te moquer de quelqu'un qui est en relation avec Dieu, parce que ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui compte, mais c'est le dedans qui compte. En toi, il y a des potentiels de monter plus haut. En toi, il y a des potentiels de voler plus haut. En toi, il y a des potentiels de faire de grandes choses. En toi, il y a des potentiels d'aller encore de profondeur en profondeur. Même quand on te voit petit aujourd'hui, ce n'est pas là ton problème. Le problème, c'est que ma nature a été changée en Jésus. Il m'a rendu assez capable de voler plus haut. Que Dieu te rende capable de voler plus haut. Que Dieu te lève encore plus haut. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 40, 30 et 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes font quoi? Ils chancèlent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, c'est-à-dire ceux dont la nature a été changée, ceux qui se confient à l'Éternel, ils font quoi? Ils renouvellent leur force. Et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je prie ce matin que tu prennes le vol comme l'aigle dans tes affaires. Que tu prennes le vol comme l'aigle dans tes études. Que tu prennes le vol comme l'aigle dans ton travail. Que les gens s'étonnent. Il était là comme nous, mais il avait en lui des potentiels que vous n'aviez pas. Il les a développés au fil des années et il peut voler. Je prie que tu voles. Je prie que tu montes. Je prie que tu montes. Que tes ennemis te voient et qu'ils se disent, nous étions semblables au départ, mais il avait des potentiels que nous n'avions pas. Nous étions semblables au départ, mais il avait en lui ce que nous n'avions pas. Ce sont des coqs. Quand tu les vois, tu es méprisé, dis-toi, ce sont des oiseaux de la basse. Cours. Toi, tu es un aigle. Tu dois aller dans les hauteurs. Ta place est dans les hauteurs. Ta place est dans les hauteurs. La différence est au niveau du contenu. Tu as en toi des potentiels de faire de grandes choses. Tu as en toi des potentiels de devenir patron d'une entreprise. Mais aussi longtemps que tu demeures un enfant, tu te contentes des miettes là, des petites choses. Tu as en toi des potentiels, des potentiels. Dis avec moi, j'ai des potentiels surnaturels. Tu as des potentiels surnaturels de faire de grandes inventions. Tu as des potentiels surnaturels pour aller plus loin, pour faire de grandes choses. Tu as en toi des potentiels. Dieu n'a pas fixé une limite. Tu vas voler comme l'aigle et monter plus haut. Monter plus haut. Alléluia. Lorsque quelqu'un se confie à l'Éternel, il devient une nouvelle création. Sa nature change. La présence de Christ en lui apporte des compétences, des capacités qui lui permettent de prendre les vols comme l'aigle, c'est-à-dire voler plus haut que les oiseaux de la basse-cour. Tu peux courir sans te fatiguer. Tu peux marcher sans te fatiguer. La question que nous pouvons encore nous poser ici ce matin est celle de savoir comment alors devenir cet aigle capable de voler plus haut et être en mesure de résoudre des situations difficiles. Les potentiels sont là. Je suis appelé à voler comme l'aigle, à monter plus haut. Mais comment devenir cet aigle-là, capable de voler plus haut et être en mesure de résoudre des situations difficiles? L'apôtre Paul répond à cette question dans Galates chapitre 4, le verset 19. Galates chapitre 4, le verset 19. Il dit quoi? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, la dernière partie dit quoi? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et suivez-moi très bien. Jusqu'à ce que Christ fasse quoi? Soit formé en vous. Or, nous disons que la nouvelle création en Christ qui est en nous doit faire quoi? Doit grandir. Mais comment doit-elle grandir? C'est Christ qui est en nous là qui doit grandir dans ces trois dimensions. Il faut que le Christ qui est en nous ne reste pas un Christ bébé. Il faut qu'il grandisse. Qu'il grandisse en sagesse, qu'il grandisse en stature et qu'il grandisse en sagesse. Il faut que la nouvelle création de Christ en nous croisse en sagesse, en stature et en grâce à l'image de Jésus. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 17, le verset 17, Jésus voit cet homme qui vient vers lui avec son enfant qui était lunatique. Il dit, j'ai amené mon enfant vers tes disciples. Et ils n'ont pas pu chasser le démon qui était en lui. Jésus se fâche. Il tourne vers les disciples. Il se tourne vers les disciples. Il dit quelque chose de très important ici. Il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous comprenez ça? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? En d'autres termes, le temps que j'ai déjà fait avec vous, vous devriez déjà être à un autre niveau. C'est pourquoi l'auteur à l'épître aux Hébreux dit, dans Hébreux chapitre 5, les versets 12 et les versets 13, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. » Jésus se fâche, il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? En réalité, le temps que j'ai déjà passé avec vous, vous devez déjà être plus loin, vous devez déjà aller à un autre niveau. Ils ont parlé aux démons, mais les démons n'ont pas obéi. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la voix d'un homme mûr et la voix d'un enfant. Lorsque les disciples chassent les démons ne partent pas, Jésus vient les reprocher. En d'autres termes, ces gens-là, ils avaient manifester des signes de la vulnérabilité, de leur immaturité, c'est comme un bébé qui vient chasser une grande personne. Voyez. C'est ça, un chrétien immature, mais qui cherche quand même à chasser des démons. Il faut la voix d'un homme. Sors! Et puis il s'en va. Cette voix-là, beaucoup ne l'ont pas encore eu jusqu'ici. C'est là le problème. Amen. Pourquoi les disciples n'ont pu chasser ces démons? Jésus répond en disant, c'est à cause de votre incrédulité. Autrement dit, un disciple incrédule a la voix d'un bébé, mais qui essaye quand même de donner un ordre à Satan. Alors, voyons rapidement la première dimension de la croissance d'un adopté. La première dimension, c'est la croissance d'un adopté. C'est croître en sagesse. Croître en sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Est-ce que c'est que la sagesse? Notez, après lecture de plusieurs définitions concernant la sagesse, je suis tombé dans la conclusion selon laquelle la sagesse n'est rien d'autre que la mise en pratique de la connaissance. Après lecture de plusieurs définitions concernant la sagesse, je suis tombé dans la conclusion selon laquelle la sagesse n'est rien d'autre que la mise en pratique de la connaissance. La mise en pratique de la connaissance. On peut parler de la prudence, on peut parler de la prise de conscience de soi et des autres, on peut parler de beaucoup d'autres choses, mais la vraie sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Parce qu'il y a une chose que d'avoir la connaissance, mais ça n'est aussi une autre que de mettre cette connaissance-là en pratique. C'est une chose que d'avoir de l'intelligence, mais c'est aussi une autre chose que d'avoir de la sagesse. Parce que tout celui qui est intelligent n'est pas forcément sage. Mais tout celui qui est sage est intelligent. Vous comprenez ça? Quelqu'un peut être intelligent et manquer de la sagesse. Pourquoi? Parce que un professeur d'université a appris. Il a la connaissance que pour que quelqu'un passe des classes, il doit réussir dans des cours et tout ça, tout ça. Mais on voit quand même une jeune fille qui passe des classes, on regarde ses cotes et tout ça, ses devoirs, ses TP. Elle ne pouvait pas réussir avec ces notes-là, mais elle est quand même passée des classes. Par quel mécanisme? Vous connaissez ce mécanisme-là. À ce moment-là, l'intelligence n'a pas agi. Vous voyez? La mise en pratique de l'intelligence a posé un problème. On peut être intelligent et ne pas être sage. Il y a une différence entre la sagesse et l'intelligence. C'est ce que nous voyons aussi avec les fils d'Élie. La Bible les appelle des hommes pervers. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2, que nous avons lu, verset 21 au verset 26. La Bible parle des fils d'Élie. Là où Samuel est déposé, ces hommes sont appelés des fils pervers. La perversité, en d'autres termes ici, c'est un problème qui touche à la morale. Ils ont une crise de moralité. Alors, ils avaient la connaissance, parce qu'ils sont appelés aussi sacrificateurs. En tant que sacrificateurs, ils savaient, comme il est écrit dans Deutéronome 18, verset 3, ils savaient quel était leur droit en tant que sacrificateurs. Ils pouvaient, la Bible dit, voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Ils avaient cette connaissance. Mais dans la pratique, voici ce qu'a été leur manière de faire. 1 Samuel 2, 13 à 16. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait couler la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans les chaudrons, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs les prenaient pour lui. On ne sait plus voir si c'est l'estomac, on ne sait plus voir si c'est l'épaule, mais tout ce que la mer amenait à la surface, c'est ce que les sacrificateurs prenaient. Donc la connaissance existe, mais la pratique fait défaut. Et je puis aller plus loin, frères et sœurs, la crise de notre pays n'est pas au niveau des hommes intelligents, c'est au niveau des hommes sages que nous n'avons pas assez. La crise dans les familles aujourd'hui, ce n'est pas au niveau de l'intelligence. Il y a des diplômés dans toutes les familles, des hommes et les femmes, licenciés en ceci, licenciés en cela. Mais pourquoi les familles patauchent? Pourquoi on a du mal à résoudre des questions difficiles? C'est parce que la sagesse est absente. On connaît, mais on a du mal à appliquer ce qu'on connaît. C'est là le problème, frères et sœurs. Vous connaissez les lois, vous connaissez les droits, vous connaissez les textes légaux, vous connaissez tout ce qu'il faut, mais vous n'arrivez pas à appliquer ce qu'il faut appliquer. Les gens qui sont dans les affaires, ils savent comment faire tout ça pour réussir. Mais lorsqu'il faut appliquer, ils font autre chose. C'est là la crise de la sagesse. C'est là le problème. Notre pays est malade justement à cause de cela. Où est la mise en pratique de la connaissance qu'ils avaient concernant leurs droits en tant que sacrificateurs? Et les voilà qui sont présentés comme des hommes et des femmes pervers. La sagesse est la mise en pratique de la connaissance, et cette mise en pratique passe par l'éthique. Ça passe par les règles de morale. Aujourd'hui, nous avons un souci majeur. Le travail a perdu sa dimension de l'éthique. Il est resté dans sa dimension égocentrique. Quand j'ai déjà trouvé ce qui est à moi, je me limite par là. Et l'autre se retrouve ou pas, ce n'est pas mon problème. C'est pourquoi un professeur peut coucher avec une fille n'ayant pas conscience que c'est l'enfant d'autrui aussi. Ce qu'il ne peut pas faire avec son enfant, il le fait avec l'enfant d'autre parce qu'il a perdu la dimension de l'éthique. Et c'est là le problème, frères et sœurs. C'est lui qui doit payer aux autres leur salaire. Il ne se voit que lui-même. Il ne sait pas que les autres ont aussi des familles. Ils ont aussi des gens à nourrir. La mise en pratique pose problème. Il connaît que ça c'est pour eux, ça c'est pour les autres, mais il prend tout pour lui. La mise en pratique de la connaissance pose problème. Ce n'est pas la sagesse à la manière des hommes, où on se dit quand on voit les cheveux blancs, on se dit que c'est vraiment là le signe de la sagesse. Non, on peut avoir des cheveux blancs, mais être un immature, un moins sage. Ce ne sont pas les cheveux blancs qui donnent à un homme la sagesse, moins encore l'accumulation de connaissances, non. Parce que Jésus était encore enfant. À 12 ans, la Bible le présente comme étant rempli de sagesse. Donc, on peut être un jeune homme plein de sagesse. Car la mise en application, la mise en pratique de la parole pose problème. Il y a cette crise de la sagesse. C'est notre manière d'agir après avoir eu la connaissance qui déterminera si nous sommes sages ou pas. Car l'accumulation de connaissances extraordinaires soit-elle, n'est jamais synonyme de la sagesse. Et c'est ce que nous voyons également avec Jésus qui interpelle les scribes et les pharisiens. Dans Matthieu chapitre 23, 1 à 12, nous n'allons pas lire. Là, Jésus parle de cette attitude des scribes et des pharisiens. Jésus dit, faites ce qu'ils vous disent, car eux-mêmes, ils disent et ne font pas. Vous voyez. Nous sommes dans un temps où les hommes parlent trop, mais ils ne font pas. Nous sommes dans une année électorale. Vous entendrez des discours, vous entendrez des paroles et tout ça. Mais, faisons marche en arrière 5 ans avant. Si ce qui avait été dit 5 ans avant a été fait, c'est là que nous allons juger. Nous allons revenir avec les vidéos, nous allons revenir avec tout ça pour dire voilà ce que tu avais dit et qu'est-ce que tu as fait. Alléluia. N'allons pas avec les poulets, n'allons pas avec les t-shirts. À l'époque, les poulets étaient un rendez-vous de la bonne année. Mais aujourd'hui même, donc ce n'est plus la nourriture qui doit nous impressionner. Nous devons maintenant juger les hommes sur la mise en pratique de ce qu'ils ont dit ou de ce qui est écrit conformément à ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Et Jésus interpelle les scribes et les pharisiens par rapport à cela. Je dois aller vite. Comment grandir et continuer à grandir dans un environnement rongé par l'immoralité si on ne fait pas preuve d'une croissance en sagesse? Notez. Samuel nous apprend que tout celui qui entre à Silo trouve devant lui deux choses. Samuel nous apprend que tout celui qui entre à Silo trouve devant lui deux choses. Une fourchette à 3 dents et un éphod. C'est le choix de l'un ou de l'autre qui déterminera notre avenir et notre devenir dans la maison de Dieu. Samuel nous apprend que tout celui qui entre à Silo trouve devant lui deux choses. Une fourchette à 3 dents. Et un éphod, c'est le choix de l'un ou de l'autre qui déterminera notre avenir et notre devenir dans la maison de Dieu. La sagesse de la fourchette à 3 dents te ramènera certainement les gros morceaux de la viande dans la bouche. Mais elle finit toujours par susciter la colère de Dieu et t'amener jusqu'à la mort. Dans la maison de Dieu, Samuel nous apprend que quand tu y viens, tu trouveras dans un coin la fourchette à 3 dents, fabriquée par le fils d'Élie. Mais tu trouveras aussi le faux de l'habit du sacrificateur qui est à côté. C'est à toi de faire le choix. Quand tu entres, tu prends quoi? Quand tu entres dans une entreprise, tu trouveras aussi ces deux instruments. Tu trouveras la fourchette à 3 dents, mais tu trouveras aussi le faux du sacrificateur à côté. C'est à toi de savoir quel instrument prendre. C'est vrai, la fourchette à 3 dents va te ramener le gros morceau de la viande à la bouche. Mais fais très attention. La même fourchette va susciter la colère de Dieu. La même fourchette va t'amener à la mort. Alléluia. Malheureusement, c'est là la sagesse du monde, c'est-à-dire la sagesse de la fourchette à 3 dents, où les hommes recherchent et s'affectionnent aux choses de la terre plutôt qu'aux choses d'en haut. Malheureusement, c'est là que nous passons plus de temps. C'est là que nous engageons plus. Nous nous battons chaque jour, nous dormons tard, nous nous réveillons très tôt pour juste appliquer la sagesse de la fourchette à trois dents. C'est-à-dire là où je suis, aussitôt que j'arrive, je construis. Aussitôt que j'arrive, j'achète des véhicules. Aussitôt que j'arrive, il faut qu'on me voie. C'est la fourchette à trois dents qui ne regarde pas au bien-être de l'autre, qui ne regarde qu'à son bien-être. Parce que les serviteurs, ceux qui offraient les sacrifices, disaient au fils d'Élie, attendez que nous offrons d'abord la graisse. Mais ces gens-là disaient non, notre fourchette doit faire son travail. Il faut qu'elle ramène quelque chose à la bouche. Les sacrificateurs qui sont de la maison de Dieu, parce que la Bible dit que nous sommes, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais ces sacrificateurs qui sont là devant moi et qui me suivent à la télé, combien n'ont-ils pas de fourchettes à trois dents dans les bureaux? Combien n'ont-ils pas de fourchettes à trois dents dans les affaires qu'ils font? Combien n'ont-ils pas de fourchettes à trois dents là où ils enseignent? Combien n'ont-ils pas de fourchettes à trois dents dans tout ce qu'ils font? Pourquoi? Parce que on veut, alors, on veut du coup se satisfaire, avoir ce qu'il faut avoir. Et on s'accroche à ce qui est terrestre. C'est pourquoi la Bible dit ici dans Colossiens chapitre 3, le verset 5 et le verset 7, l'apôtre Paul dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité, on veut tout s'accaparer pour soi-même. L'impudicité, pas de pudeur, pas de retenue. La sagesse n'existe plus parce qu'on ne regarde qu'à soi-même. Jésus nous dit, il faut croître en sagesse. Il faut grandir en sagesse. Il y a des potentiels qui sont en toi qui vont te faire voler comme l'aigle, comme l'avons vu tout à l'heure. Mais il te faut grandir en sagesse. C'est-à-dire savoir comment agir avec efficacité et efficience par rapport à ce potentiel que tu as reçu en toi. Ces potentiels que tu as reçus en toi exigent une manière de te comporter, une manière de vivre dans la maison de Dieu, au travail, partout où tu es, dans la maison, une certaine manière, savoir le temps des choses dans ta vie. Sacrificateur, oui, c'est vrai, mais il te faut la sagesse. Il te faut la sagesse. Même dans les affaires, vous pouvez être deux ou trois personnes, vous faites la même activité, mais ce qui va faire la différence, c'est ta sagesse dans ces affaires-là. Qu'est-ce que tu apportes pour te distinguer des autres? Et cette sagesse, ça se demande à Dieu. Cette sagesse, ça s'obtient aussi par la prière. Et c'est très important. Il dit, faites donc disparaître, faites mourir l'impudicité, l'impureté, les passions et les mauvais désirs. Et c'est ce qui bloque plusieurs enfants de Dieu qui devaient déjà depuis très longtemps voler plus haut, qui devaient aller plus loin, déployer tout ce qu'ils avaient comme potentiel. Déposé par Jésus au moment de leur conversion. Mais ils ne savent pas voler plus loin. Pourquoi? Ils sont encore attachés aux choses d'en bas. Aux choses de la terre. Aux choses terrestres. Aux choses terrestres. J'ai donné les affermissements au centre-ville. Et puis, j'ai parlé pratiquement presque de toutes ces choses et tout ça. Il y avait un frère là qui me regardait. Et puis, il souriait. Et puis, à la fin, je pose la... Quand il souriait pour... Ah, la Bible, on ne les a pas si vraiment. Pour laisser ça, c'est compliqué. Oui, je sais que c'est compliqué. Mais la vie chrétienne n'est jamais une vie facile. Il faut à un moment accepter de perdre pour gagner. Il faut à un moment accepter de laisser tout. Et tu n'as que Christ avec toi. Et je suis sûr et certain que Jésus ne t'abandonnera jamais. Il dit, je n'ai jamais vu. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Non, le juste ne sera pas abandonné. Le juste ne sera pas abandonné. Alléluia. Cette sagesse de la fourchette à trois dents guette tout le monde, y compris les sacrificateurs. Malheureusement, elle a déjà fait des victimes au milieu des sacrificateurs. Celui qui fait le choix de l'effort, par contre, aujourd'hui, fait le choix de porter le jugement. Un jugement droit, un jugement sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Samuel arrive à Silo, il trouve d'un côté la fourchette à trois dents, et il trouve de l'autre côté l'effort. Il dit, si je prends la fourchette à trois dents, il y a entre mes mains l'onction des trois rois. Il y a entre mes mains, même après ma mort, la guérison de cet homme qui va, la résurrection de ces morts-là. J'ai des choses, j'ai des potentiels en moi qui vont se développer demain et après demain. Je mets de côté la fourchette à trois dents. Je porte l'effort. L'effort, c'est cet habit du souverain sacrificateur qu'il mettait au-dessus de la robe. Et sur l'effort, il y avait ces deux pierres. Dans l'une des pierres était écrit les six tribus d'Israël, six pour faire les 12 tribus. ce qu'on appelle l'Urim et le Thummim. Et c'est par ces deux pierres que le peuple connaissait la volonté de Dieu. C'est par l'Urim et le Thummim que le peuple accédait à la décision de Dieu par rapport à ce qu'il était appelé à faire. Et lorsque Samuel arrive à Silo, il dit, dans cette nouvelle marche avec Jésus, je ne marche pas avec le gain de ce monde, mais je marche tout en me rappelant qu'il y a un jugement de Dieu auquel je dois me conformer. Il y a un jugement de Dieu auquel je dois me conformer. Un jugement juste, un jugement droit, un jugement sûr, averti dans ses décisions et ses actions. Il peut arriver que tu sois devant une difficulté, mais la différence, sera dans ta façon de régler ces problèmes. Car tous les problèmes ne se règlent pas de la même manière. Les fautes, une des composantes des habits sacerdotaux, jouent un rôle crucial dans la vie spirituelle des enfants d'Israël. Les fautes de la sagesse de Dieu, qui permet à l'adopté de discerner le bien du mal, afin de résoudre les problèmes et de juger avec équité. Et nous terminons avec Jacques chapitre 1, le verset 5 qui dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Personne ne t'aide dans la prière.